Hanouka est une fête étrange. Elle raconte l'histoire d'une confrontation entre Israël et sa tradition et le monde hellénistique. Or, cette relation entre Israël et le monde hellénistique n'est pas tout à fait une opposition totale. En effet, nous savons que les sages d'Israël ont dénommé les sages de Grèce du nom de sages, Chachmei Yavan. Or, nous avons une règle de la halakha qui est que lorsqu'on rencontre un sage des nations, il faut prononcer une bénédiction pour remercier le Créateur d'avoir donné de l'intelligence, d'avoir donné de la sagesse à ses créatures. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une disqualification totale de l'héritage de la Grèce, de la philosophie, de la science, du régime politique, enfin tout ce que la Grèce a amené au monde. Et d'un autre côté, il est évident que du point de vue de la tradition hellénistique, la rencontre avec le judaïsme n'a pas été également un refus total. Et c'est là que les choses donc se compliquent. Il faut tout d'abord se rendre compte que lorsque les premiers Grecs arrivaient au Proche-Orient avec Alexandre le Grand, et puis après les dynasties Séleucides et Ptolémée, quand ces Grecs ont rencontré pour la première fois le judaïsme, la réaction a été celle d'une admiration profonde. En effet, nous avons un témoignage d'un élève d'Aristote, Cléarque, qui raconte la rencontre entre son maître Aristote et un juif du nom de Simon, en hébreu Shimon. Le juif en question, nous savons par tradition qu'il s'agit de Shimon HaTzadik, Siméon le Juste, qui était grand prêtre à l'époque d'Alexandre le Grand. Et donc Aristote, naturellement, rencontre également ce Shimon. Et il raconte que son maître, enfin, Cléarque raconte que son maître Aristote a été fortement impressionné par la sagesse de ce juif, de ce judéen comme on disait à l'époque, et qui était tellement sage et tellement érudit qu'on pouvait s'imaginer qu'il était un grec. Alors, c'est là que commence déjà le problème. Ça veut dire que la civilisation hellénistique juge l'autre en fonction de sa conformité au système de concepts qui est le sien. C'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir chez les Hébreux quelque chose d'autre à dire que ce que dit la philosophie grecque, par exemple, ne traversait pas l'esprit d'Aristote. Mais, malgré tout, il y a quand même admiration. Quand nous passons quelques générations plus tard au temps de Ptolémée II, qui a décidé de traduire la Torah en grec, il faut comprendre que du point de vue des Ptolémées, c'était un jour de fête. La traduction de la Torah en grec était considérée comme un événement extraordinaire. Et effectivement, on le trouve dans la lettre d'Aristée, qui fait partie des apocryphes, le récit justement de cette traduction et comment est-ce que ça a été accepté, comment ça a été reçu avec joie à Alexandrie. Or, il faut bien comprendre que la traduction de la Torah en grec est un problème du point de vue de la tradition d'Israël. En effet, nous avons des sources rabbiniques qui nous disent, qui présentent ça comme le jour où la Torah a été traduite en grec, il y a eu de l'obscurité dans le monde pendant 3 jours, et ce jour-là était dur pour Israël, comme le temps de la fabrication du veau d'or. Alors, on peut s'étonner, alors que les Grecs ont fait ça par admiration. Il faut bien comprendre ce que ça signifiait, du point de vue des Grecs d'Égypte de l'époque, de traduire la Torah en grec. Ça voulait dire qu'on considérait que la Torah était un contenu de sagesse extraordinaire qui a été conservé par le peuple d'Israël. Et que le moment était venu de sauver ce texte de l'oubli en le traduisant dans la langue de la culture générale. La culture générale, donc la culture par excellence, la culture absolue, étant celle des Grecs, en fait, toute autre culture ne serait qu'un cas particulier de cette culture. Par exemple, le judaïsme serait une des manières d'être grec. Être égyptien, c'est une autre manière d'être grec. Mais on peut dire que l'horizon ultime de la culture, ça serait ce qui serait défini par le grec. Et donc, la Torah devra être traduite en grec pour avoir sa place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie. À côté des œuvres d'Aristote, de Platon, alors il y aura également la loi de Moïse. Donc, en fait, il y a ici un malentendu. Parce que la Torah n'est pas une sagesse. La Torah est une parole. C'est une parole sage, sans aucun doute. C'est la parole du Créateur, mais c'est une parole. Or, une parole est adressée à un interlocuteur. Et cette parole, donc, elle doit être interprétée en fonction de celui à qui elle est adressée. Or, elle est adressée à Israël. Et donc, à partir du moment où on en fait une œuvre de sagesse exclusivement, on a dévitalisé tout ce que cette Torah représentait. Et donc, l'admiration grecque était, du point de vue d'Israël, en fait, une sorte d'assassinat de l'identité d'Israël. Il y a dans les prières que nous récitons à Hanouka, il y a un texte dans lequel on dit « Lorsque s'est élevé contre ton peuple Israël, l'empire scélérat des Grecs. » Et là, la suite est intéressante parce qu'il y a différentes versions, mais la version originelle, c'est « les shakeham mitoratecha ». Alors, on peut traduire ça, comme on le fait souvent, pour leur faire oublier ta Torah. Mais ce n'est pas ça dont il est question. C'est en fait « les shakeham mitoratecha », ça veut dire « les faire oublier de la Torah ». C'est-à-dire que les Grecs ont bien voulu prendre la Torah, mais ont refusé l'identité nationale d'Israël. Ce qui est en fait à l'origine, très lointaine, mais enfin pas trop loin quand même, de la tentation chrétienne, la tentative chrétienne, qui sera finalement de s'approprier le texte biblique en refusant la dignité à Israël. Et on peut dire donc de ce point de vue-là, ce qui s'est passé par la suite avec les persécutions d'Antiochus qui ont amené la révolte des Maccabées contre les Grecs et finalement la restauration du Temple de Jérusalem, tout cela était déjà, on pourrait dire, en racine dans la première rencontre et le premier malentendu entre la civilisation grecque et la civilisation d'Israël. Et donc on peut comprendre maintenant pourquoi cette fête est appelée la fête des Lumières. Nous connaissons tous le miracle de la fiole, mais c'est beaucoup plus large que ça. En effet, la fiole est un récit intérieur qui est resté, on pourrait dire, pratiquement en secret au sein du judaïsme. Le miracle de la fiole n'apparaît pas, par exemple, dans les livres des Maccabées, ni dans Flavius Joseph, mais on parle de la fête des Lumières malgré tout. Eh bien, on peut se demander, et pourquoi la fête des Lumières? Parce que la tradition rabbinique considère que l'obscurité, celle dont il est question déjà dans la création du monde, lorsqu'il y avait obscurité à l'origine du monde, eh bien cette obscurité est identifiée comme étant la Grèce. Or, c'est extrêmement surprenant, parce que si déjà la Grèce a fait quelque chose dans le monde, elle a amené la lumière. Il y a eu la lumière de la philosophie, de la science, de la démocratie, de beaucoup d'éléments, d'esthétique, l'art. Tout cela nous vient de la Grèce. Or, dire que c'est de l'obscurité, ça pourrait être accusé d'obscurantisme. Mais justement, c'est parce que nos sages considéraient que la Grèce était une source de lumière et que la Torah aussi est une source de lumière. Il y a rivalité entre deux lumières. Quand deux lumières s'affrontent, c'est là qu'il y a obscurité. Et donc, c'est justement par rapport à la lumière de la Grèce qu'est apparue la lumière d'Israël. Or, cette lumière d'Israël était nécessaire justement au temps où cela s'est passé. En effet, lorsqu'il y a l'affrontement, on pourrait dire la rencontre, entre la civilisation grecque et la civilisation d'Israël, c'est un temps où les prophètes se sont déjà tus. Il n'y a plus de prophètes en Israël. Parce que tant qu'il y avait des prophètes dans le monde, l'affirmation grecque comme quoi la Torah ne serait qu'une sagesse, et donc elle doit être indexée à l'universel, eh bien cette affirmation ne pouvait pas être formulée. Parce qu'il était évident que quand Dieu parle, il parle avec son peuple. Mais c'est justement à partir du moment où cette révélation a cessé, qu'il a été possible de penser que finalement Israël devait se fondre dans l'univers de la civilisation générale, de ce qu'on appelle la culture générale. Or, il était problématique pour les Maccabées de fêter véritablement la fête des Lumières lors de la victoire contre les Grecs. En effet, parce qu'on pouvait se dire, c'est vrai qu'il y a eu victoire militaire, mais une victoire militaire ne prouve pas que la thèse fondamentale des Grecs est fausse. C'est pour cela qu'il a été nécessaire qu'il y ait le miracle de la fiole. C'était une sorte de clin d'œil. On pourrait dire dans un temps où la présence divine, le discours direct et immédiat de Dieu à son peuple n'est plus évident, il a fallu quand même qu'il y ait un clin d'œil d'en haut qui nous dise non, même dans ce temps-là, Israël n'est pas abandonné. Vous savez, on dit souvent, il y a un terme qui était employé avant, il y a longtemps, on appelait ça l'histoire sainte. Quand on parle d'histoire sainte, cela suppose qu'il y a une histoire sainte et une histoire profane. Mais on peut dire que c'est exactement le contraire. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que l'histoire est sainte. Et donc, même quand il n'y a pas révélation, il y a toujours présence. Présence du Créateur à travers l'histoire de son peuple. Et donc, sa mission n'est pas achevée et il continue d'illuminer le monde.